Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, l'Amérique et vous avec Timothée Donangmaï. Il attend vos réactions sur les 8e de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Mais tout d'abord, le point de l'actualité. Rideau sur le sommet de l'Union africaine ce vendredi à Malabo, la capitale de l'Afrique, de la Guinée équatoriale. Les leaders africains ont appelé à davantage d'investissements dans l'agriculture. Ils ont également discuté des efforts concertés pour régler les conflits qui couvent à travers le continent, du Soudan du Sud à la République centrafricaine. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a promis une collaboration continue entre l'Union africaine et l'ONU pour résoudre les conflits dans le monde. L'Union africaine a également travaillé à la création d'une force de maintien de la paix de veille qui peut être déployée rapidement pour intervenir en cas de conflits régionaux. Concertation en Guinée entre le gouvernement, la commission électorale indépendante et l'opposition. Les trois parties ne s'étaient pas rencontrées depuis le 3 juillet 2013 quand elles ont signé des accords politiques obtenus grâce à une médiation internationale. L'opposition guinéenne qui réclame le respect de ces accords a suspendu ses activités à l'Assemblée nationale pour forcer l'exécutif au dialogue. Zakaria Kamara.
Au terme du premier jour de concertation, la mouvance présidentielle affiche plutôt un optimisme. Amadou Damaro Camara représente le RPG et ses alliés.
L'atmosphère est une bonne atmosphère de cordialité. Et nous, de la mouvance, nous avons toujours œuvré à ce que l'opposition, qui est aussi une opposition guinéenne, ce qui la compose sont de la Guinée, qu'ils viennent à l'Assemblée pour qu'on continue le travail pour lequel le peuple de Guinée nous a mandaté.
Mais avant les débats de fond, Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition, insiste sur quelques règles.
Nous avons posé d'entrée de jeu deux questions préjudicielles, à savoir l'ordre du jour et le cadre de dialogue. Nous avions demandé à ce que ce soit exactement les mêmes parties prenantes au dialogue de 2013, les parties signataires de l'accord du 3 juillet. Nous avons donc décidé qu'il y aurait autour de la table effectivement la mouvance présidentielle, l'opposition, la CENI, le gouvernement, les deux facilitateurs nationaux et puis la communauté internationale pourrait intervenir au cas où le dialogue pourrait s'avérer beaucoup plus laborieux que prévu.
Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Merci Zakaria. Propagation de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone annonce l'octroi de près de 1,32 million d'euros à la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande à la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et à la Guinée-Bissau de se préparer à l'arrivée éventuelle de voyageurs infectés par le virus. Visite du président égyptien au Soudan, Abdel Fattah al-Sissi cherche à former une alliance contre l'extrémisme islamiste. Des entretiens avec le président Omar el-Béchir étaient prévus d'après l'agence SUNA, cité par l'agence France-Presse, d'autant que des centaines de manifestants étaient dans les rues pour dénoncer la répression contre les frères musulmans en Égypte.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Ukraine a signé ce vendredi un accord de libre-échange avec l'Union européenne à Bruxelles. Le président ukrainien Petro Poroshenko a dit que son pays a payé le prix le plus élevé pour atteindre cet objectif. Malgré l'opposition de Moscou, le président Poroshenko a qualifié la signature d'historique. Le président russe Vladimir Poutine a tenu à rappeler que c'est la controverse sur cet accord qui a conduit à l'éviction du président pro-russe Viktor Yanukovych au début de cette année et à l'annexion de la Crimée par Moscou. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec Ahmad al-Jarba, leader de l'opposition modérée syrienne. Pour lui, la traversée de la frontière pratiquement ouverte entre la Syrie et l'Irak par les insurgés a créé la confusion à travers la région. Et puis, les autorités israéliennes annoncent avoir identifié deux Palestiniens soupçonnés dans l'enlèvement de trois adolescents israéliens il y a deux semaines en Cisjordanie. Selon l'agence israélienne de sécurité, il s'agit de Marwan Kamawesh et Amer Abu Haché, deux membres du Hamas qui étaient auparavant emprisonnés en Israël pour terrorisme. Israël a arrêté des centaines de membres du groupe palestinien dans le cadre des efforts visant à retrouver les trois jeunes otages. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas s'est jointe à l'opération. Le Hamas a démenti toute implication dans la disparition des adolescents. Vous écoutez la Voix de l'Amérique, ne partez pas. L'Amérique et vous, c'est maintenant Timothée Donangmaï.
I have a dream. It's one small step for man. One giant leap for mankind.
une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis. Timothée Donangmaï en votre compagnie dans cette édition consacrée à la participation de Team USA à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Ce sera aussi bien sûr l'occasion de faire le point à l'issue de la phase de groupe et d'évoquer les chances de l'Afrique dans cette compétition. Nous avons en direct de Rio de Janeiro notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Également au téléphone de Silver Spring dans le Maryland, Eugène Pewa Pelema, ancien olympien centrafricain, président d'Africa Education Sports, une ONG qui obtient des bourses pour des jeunes sportifs africains. Et avec moi ici en studio, mon collègue Bagassi Koura. Comme d'habitude, vos interventions en direct au 001 pour les États-Unis, 202-619-3140. 001-202-619-3140. Avant le début de cette Coupe du Monde au Brésil, les Américains étaient modérément optimistes. À présent qu'ils s'apprêtent à affronter mardi la Belgique en huitième de finale, ils sont gonflés à bloc. Voici quelques fans réagissant ici à Washington à la qualification de Team USA au huitième de finale.
Nobody expected the US to make it, but we did, and I'm not surprised, but you know what? It's great, it's incredible.
Personne ne s'attendait à ce que les États-Unis avancent, mais nous l'avons fait, et je ne suis pas surpris. Et vous savez quoi? C'est beau, c'est incroyable. À mon avis, les États-Unis sont en ce moment les favoris pour remporter la Coupe du Monde après cette prestation, dit ce fan américain, et un autre de renchérir. Nous avons 100% de chance de la remporter, nous pouvons tout gagner. Ce n'est donc pas l'enthousiasme qui fait défaut ici aux États-Unis parmi les fans de Team USA. Nicolas Pinault, on sait qu'après le Brésil, les États-Unis sont le pays ayant acheté le plus grand nombre de billets pour ce Mondial 2014. Quelle est l'ambiance au sein des fans de Team USA là-bas?
Les Américains, Timothée, bonsoir, sont de plus en plus motivés. Ils y croient. Ils y ont commencé à y croire vraiment à partir de la première victoire, c'était contre le Ghana 2-1. Et puis petit à petit, leur parcours, leur avancée, grâce notamment à Dempsey, le capitaine, qui a inscrit le but le plus rapide de cette Coupe du Monde, 30 petites secondes. Le joueur de Seattle, hein, qui est vraiment un emblème pour son équipe. Et les Américains, on voit de plus en plus de drapeaux, on voit de plus en plus de supporters hein, lors des matchs avec les maillots de l'équipe USA. Et donc c'est vrai que ce huitième de finale apparaît en plus abordable contre la Belgique. Donc les Américains se prennent à rêver, Timothée.
Et Nicolas, cette Team USA passe en huitième de finale avec une équipe nettement rajeunie.
Oui, tout à fait. Hein. On avait notamment Donovan hein, qui n'a pas été retenu pour cette Coupe du Monde. Et il faut noter des joueurs comme Bradley, comme Davis ou encore comme Jones. Vraiment une bande de jeunes emmenée par le vieux Dempsey, encore une fois, qui fait son bonhomme de chemin. Et je crois surtout ce que les amateurs de football apprécient dans cette équipe américaine, c'est vraiment la combativité. Hein. On l'a vu lors du dernier match contre l'Allemagne, ils étaient menés 1-0, mais ils n'ont pas été ridicules hein, face aux favoris allemands. Et je crois que Jürgen Klinsmann, le tacticien, a réussi à mettre une belle équipe sur place, qui occupe quand même, il faut le dire, hein, la 13e place au classement FIFA, ce qui n'est pas négligeable.
Nico, vous restez avec nous. Nous avons Eugène Pewapelema à Silver Spring dans le Maryland. Eugène, comment vit-on dans le Maryland cette qualification de Team USA pour les huitièmes de finale?
Oui, bonsoir Timothée. Je vous remercie de m'avoir invité. Mais écoute, dans le Maryland, comme vous le savez, tous les Américains sont très fiers de leur équipe et ils ont raison de l'être parce que on voit un pays où le football n'est pas vraiment aussi développé que dans d'autres pays, mais où la combativité, comme l'a dit Nicolas, est au top niveau. Et je pense que ça, c'est la force de caractère des Américains qui leur a permis de passer ce tour et qui peut leur permettre de passer le prochain tour. Et dans cette Coupe du Monde, il y a tellement eu de surprises que rien n'est impossible. Les Américains sont gonflés à bloc. Ça fait vraiment, lorsqu'on voit les images de l'équipe américaine sur le terrain, à l'hymne national, on ressent une sorte de fierté d'une certaine manière, parce que moi je suis centrafricain, mais quand je vois ça, ça me dit, mais vraiment, si toutes les nations pouvaient avoir cette fierté de la nation, défendre le drapeau, ça permettrait à des équipes comme nos équipes africaines qui n'ont pas bien tourné, de faire des des meilleures prestations.
Bagasikoura, quelques rares voix ici aux États-Unis s'étaient élevées contre la décision du coach Jürgen Klinsmann de faire appel à quelques jeunes joueurs nés de parents américains à l'étranger, en Allemagne notamment, alors qu'ils disent qu'on doit faire appel aux joueurs formés ici aux États-Unis. Et d'autres font remarquer que, en fait, c'est tout le pays, de nombreux pays font la même chose.
Oui, oui. Et je pense que ce débat ne va pas continuer parce que, vu les résultats que c'est binationaux, notamment la majorité sont des américano-allemands, donc vu les résultats, mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que il y a une telle fièvre, les gens croient tellement, on a entendu tout à l'heure quelqu'un dire on va prendre la coupe, et moi j'ai bien peur que le réveil soit douloureux, parce que cette équipe, même si elle a une certaine combativité, comme le disait Nicolas, peut-être qu'à ce niveau, il y a une certaine expérience que l'équipe a encore besoin d'acquérir, ce que le public ne voit pas. Quand on voit par exemple le match contre le Portugal, il restait 2 minutes c'est là que la question d'expérience intervient le plus. Et à partir des huitièmes de finale, chaque équipe qui perd va sortir et les grandes équipes vont montrer de quoi elles sont capables. Et j'ai vraiment bien peur pour cette équipe américaine.
Et cette jeune équipe doit évidemment acquérir du métier. Nicolas, est-ce que ce serait une grande déception si l'aventure s'achevait en huitième de finale pour Team USA?
Oh ben non, soyons réalistes, Bagassi le disait, c'est vrai qu'il y a une question d'expérience de cette équipe américaine, de vécu sur le plan international. On se souvient de la défaite en huitième de finale, c'était il y a 4 ans en Afrique du Sud par le Ghana de 2-1. Depuis, les Américains ont appris, puisque par exemple ils ont battu les Black Stars de 2-1 lors des phases de poule. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de vécu, beaucoup de joueurs ont commencé à évoluer sur le niveau européen, mais cette équipe américaine est encore un peu tendre. Alors, moi, j'ai quand même tendance à penser que le huitième de finale contre la Belgique est plus ouvert que ça, car la Belgique, moi, ne m'a pas forcément convaincu sur ce premier tour. Mais c'est vrai qu'après, en quart de finale, on partirait sur une rencontre avec l'équipe de France ou le Nigeria, voire une demi-finale contre un Brésil, par exemple. Et c'est vrai que là, ça paraît déjà un cran au-dessus, quoi.
Ouais, et ce que je voudrais ajouter, parce que si l'équipe sort, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à découvrir qu'il y a une Coupe du Monde qui se passe. Hein, je veux dire, en Amérique ici, beaucoup n'étaient pas au courant jusqu'à ce qu'ils entendent parler de leur équipe nationale à la télévision. Ils se rendent compte, ils sont intéressés. Et si, au cas où ils sont éliminés, j'ai bien peur que l'enthousiasme retombe et que... Vous savez, généralement, les Américains n'aiment pas le football comme on le connaît. Ils disent que c'est trop lent, on ne marque qu'un seul but, 1 ou 2 buts par match, c'est pas assez intéressant. Et beaucoup en ce moment commencent à poser la question, comment ça marche? Et je voyais dans le New York Times hier une personne qui disait, comment est-ce qu'on nous a battus et puis en plus on doit avancer? Donc voilà, les gens se posent plein de questions sur le soccer et j'ai peur que s'ils perdent cet intérêt-là, ne retombe quoi.
Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Nous avons un auditeur en ligne, Ouédraogo Seydou de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Ouédraogo.
Oui, bonsoir.
Voilà, allez-y.
Bon, moi, j'ai 2 questions à poser. Bon, je voulais savoir, il y a eu combien d'arbitres qui ont été renvoyés chez eux depuis le début de la compétition? Là, c'est la première question. La deuxième question, je voulais savoir quel est le sort du pays qui sera classé le dernier, dans, qu'on appelle, après le classement de trucs, après la Coupe du Monde.
Quelle est l'équipe classée dernière?
Oui, le sort de l'équipe classée dernière, qu'on appelle après la Coupe du Monde.
D'accord.
Parce que j'aurais appris que non, l'équipe doit payer qu'on appelle un droit à la FIFA.
D'accord. Alors, Nico, combien d'arbitres ont été renvoyés chez eux dans cette compétition?
Alors, déjà, il y a une règle, c'est-à-dire que toutes les équipes qui sont qualifiées pour ces huitièmes de finale, c'est-à-dire les 16 équipes qui restent, aucun de leurs arbitres ne peut faire partie du pool d'arbitres qui est constitué avant la Coupe du Monde. Donc aucun arbitre américain, aucun arbitre brésilien ne sera sur la suite de la compétition. Après, il faut savoir que, par exemple, l'assistant colombien Humberto Clavijo n'a pas continué la Coupe du Monde, c'est celui qui officiait pour le match Mexique-Cameroun. Et finalement, la FIFA l'a renvoyé chez lui, par exemple, à la suite de 2 erreurs d'arbitrage sur des hors-jeux inexistant. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des plaintes de la part, notamment des Africains, concernant les mauvaises décisions. Mais quand les erreurs sont vraiment flagrantes, les arbitres sont renvoyés chez eux. Et là, il y avait récemment également une pétition, par exemple, pour que l'arbitre de Nigeria-Bosnie soit renvoyé. Donc la FIFA, lorsque les erreurs sont vraiment monumentales, la FIFA agit.
Et si j'ai bien compris notre auditeur, il veut savoir, est-ce qu'il y a une sanction pour l'équipe qui finit dernière dans ce tournoi?
Non, la seule sanction, c'est la honte. Non, il n'y a pas de sanction. Hein. C'est vrai que, par exemple, des équipes comme le Cameroun, qui ont pris 9 buts en 3 matchs, sont forcément parmi les derniers. Mais il n'y a pas de classement, d'ailleurs. Il n'y a pas de dernier à la Coupe du Monde. On est juste éliminé.
Il n'y a pas de sanction plus pénible que celle-là,
Nicolas. De l'élimination, oui.
Voilà. Et alors, quel que soit le résultat de Team USA dans cette Coupe du Monde, il ne fait aucun doute que le football continue de progresser ici aux États-Unis, surtout en milieu scolaire. Nous allons en parler tout à l'heure après cette pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, Timothée Donangmaï, en votre compagnie dans cette édition consacrée à Team USA, à cette Coupe du Monde 2014 au Brésil et au bilan de la phase de groupe. Alors Eugène, on doit reconnaître que le football est en train de progresser très très rapidement ici aux États-Unis, surtout en milieu scolaire où les petites filles adorent ce sport.
Oui, c'est tout à fait vrai, Timothée. Le football est devenu le sport numéro un au niveau de l'école élémentaire. Et comme vous l'avez dit, les filles, particulièrement, comme on sait que l'équipe américaine est championne du monde, elle a gagné cette compétition plusieurs fois, gagné les Jeux Olympiques plusieurs fois, ce qui fait que dans la gente féminine, le sport est très très développé. Et au niveau des garçons, en fait, ce qui cale pour le moment, c'est pas le fait qu'on n'aime pas le sport, mais c'est le fait que sur un plan du business, comme vous le savez, aux États-Unis, le sport, c'était un business. Ils n'ont pas trouvé encore la méthodologie pour passer les publicités pendant les matchs de football. Vous voyez, le football américain, le basketball, le baseball sont des sports qui peuvent être hachés avec des coupures où ils peuvent vendre des produits à travers les publicités. C'est ce qui permet aux athlètes de faire non seulement de l'argent et de faire vendre des produits, des business aux États-Unis. Le football, malheureusement, n'a pas encore connu ou n'arrive pas à trouver la méthode qu'il faut faire. Mais je pense que le football a aussi pris, que ce soit chez les garçons au niveau des lycées et même dans les universités. Donc c'est juste une question de temps, c'est une question d'argent. Le jour, les Américains trouvent le moyen de pouvoir faire 15-20 millions comme les gens le font au basketball et au football, je vous promets que les États-Unis, qui est déjà quand même 13e mondial, va faire un bond en avant.
En dépit de ce petit blocage au niveau business, on doit noter que au plan professionnel, le football progresse aussi avec la Major League Soccer, la ligue professionnelle des États-Unis, qui continue d'attirer des joueurs d'élite. Bagassi Koura, l'anglais, oui. David Beckham est passé par ici. Il a joué au Galaxy de Los Angeles et il s'apprête d'ailleurs à lancer une franchise de la Major League Soccer en Floride. Il y a aussi le français Thierry Henry avec le Red Bull de New York.
Et on parle même de Samuel Eto'o, hein, même s'il a récemment démenti qu'il n'est pas fini et qu'il n'aimerait pas venir aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que MLS a à peine 20 ans, hein, parce que ça a commencé après le mondial américain de 1994. Il y avait un championnat avant et qui a été suspendu. Après la Coupe du Monde ici, ils ont relancé. Et apparemment, ça commence à avoir du succès. Et si on voit que Thierry Henry veut créer un nouveau club, c'est que ça marche, quoi. Et si vous l'avez vu cette semaine, ESPN, qui est la chaîne de sport, a reconnu avoir battu tous les records de matchs de football depuis l'histoire des États-Unis.
Voilà, c'est la preuve si nécessaire que le foot est appelé à un bel avenir ici aux États-Unis. Nous avons en ligne notre ami Alphonse Mwaki de Kinshasa. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Timothée de Nangman. J'ai deux questions. La première, c'est pour les États-Unis et la seconde, c'est pour l'Afrique, pour les représentants africains. En conseil concernant les États-Unis, je voudrais savoir comment ça organise le football US au plan local. Est-ce que c'est comme en Europe, là où on trouve des provinces, des équipes dans les provinces qui se rencontrent entre elles? Est-ce que entre les États américains, il y a aussi un tel championnat pour que l'équipe américaine soit forte? Deuxième question, ça concerne l'Afrique, je veux parler à propos des primes. Il y a trop de conflits au sujet des primes.
Vous m'entendez?
Oui, oui, oui. Vous, allez-y.
Oui, il y a trop de conflits au sujet des primes. Dernièrement, au Ghana, il y a eu des bagarres, il y a eu des insultes entre joueurs et entraîneurs. Je voulais savoir si on ne peut pas instaurer. Est-ce que les politiques ne peuvent pas se mêler un jour de football au niveau de la FIFA, au niveau des fédérations, pour qu'ils aient une menu sur ces instances. Parce qu'il y a tous les détournements dans le football, au sujet des fédérations surtout africaines et au sujet de la FIFA. Est-ce qu'on ne peut pas un jour, les politiques ne peuvent pas voir un œil sur ces instances?
Voilà, merci. Merci, Alphonse. Oui, Alphonse, votre première question, l'organisation du football ici aux États-Unis au plan professionnel gêne. C'est un peu le modèle de la NBA qui est répliqué ici, c'est-à-dire qu'on s'intéresse avant tout au marché.
Exactement. Justement, pour répondre à cette question, dans chaque État pratiquement, il y a plusieurs États où chaque État a une équipe à peu près. Et il y a des conférences, donc il y a la conférence Est et la conférence Ouest. Donc, un peu comme un NBA, les gens de la même conférence jouent, je crois, 3 ou 4 fois l'un contre l'autre et 2 fois contre les équipes de la conférence opposée. Et ensuite, il y a des play-offs par conférence. Donc, la conférence Ouest fait ses play-offs, puis la conférence Est fait la sienne. Et à la fin, les champions des deux conférences se trouvent pour une finale. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les États-Unis étant un pays immigrant, il y a de nombreux jeunes qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ce qui fait que le football prend devient de plus en plus populaire. Et n'oublions pas, sur le plan démographique, ces populations sont celles qui font le plus d'enfants. Donc, dans les années futures, obligatoirement, ce sport devra prendre beaucoup plus d'importance. Et comme on le disait tout à l'heure, ne serait-ce que s'ils arrivaient à augmenter les salaires, je suis sûr qu'ils pourraient attirer des joueurs de la trempe des Ronaldo ici. Et dès que cela se fera, le football, je suis convaincu, aux États-Unis, sera l'un des meilleurs dans le monde.
Alors, je viens de vous parler là du football au niveau professionnel ici aux États-Unis, mais au niveau amateur, il y a une foule de compétitions en tout genre. Il y a même des compétitions de certaines communautés comme les Éthiopiens qui s'organisent par ville pour organiser un championnat éthiopien des États-Unis, par exemple. Donc,
il y a aussi les Guinéens qui se déplacent. Exactement. Récemment, j'ai vu un groupe de Guinéens partir à Ohio pour un tournoi entre Guinéens.
D'ailleurs, pour emboîter votre pas, il y a des championnats d'Afrique ici. Les gens organisent des championnats d'Afrique intercommunautaires. Les gens organisent des championnats du monde intercommunautaires. Il faut ajouter à cela les championnats qui se jouent au niveau de l'école élémentaire dans un programme qu'ils appellent AAU, donc AAU. Et ce programme permet aux jeunes de se développer, le championnat de lycée, puis il y a le championnat universitaire. Donc le football est vraiment très, très, très pratiqué dans l'ensemble. Ici, par exemple, dans l'état de Maryland, pas loin où j'habite, il y a un complexe où il y a plus d'une trentaine de terrains de football. Et c'est pratiquement occupé toute l'année. Il y a des terrains pendant l'hiver qui sont couverts. Donc le football vraiment a pris une différente direction depuis l'époque où Pelé est venu jouer avec le Cosmos. Et après, lorsque leur ligue est née après 1994, c'est devenu une. Ça fait quand même partie, à mon avis, de la société américaine.
Et Eugène, j'ai visité ce complexe dont vous parlez. C'est vraiment impressionnant. Une trentaine de terrains de football gazonnés avec éclairage et tout. C'est vraiment impressionnant.
Non, mais l'Amérique, si elle voit l'importance, du moins si dès qu'elle voit l'impact socio-économique du football dans leur pays, je vous promets, les États-Unis vont mettre les moyens, c'est pas comme les autres. Regardez l'équipe américaine, c'est pas une foudre de guerre, mais ils y mettent, ils ont un côté organisationnel qui est très développé, et il y a un amour propre des joueurs, la défense du drapeau, c'est quelque chose de très important, et ça donne le résultat. Donc, si ça devient une puissance économique, le football ici sera, je suis convaincu que les Américains seront parmi les 5 premières nations mondiales pendant une éternité.
Alors, Eugène, vous avez parlé d'une puissance organisationnelle, Bagassi, une puissance organisationnelle qui semble faire défaut au sein des équipes africaines, puisque notre ami Alphonse Mbouaki voudrait savoir si la FIFA ne pourrait pas intervenir pour peut-être fixer une prime qui sera la même pour tout le monde.
Oui, en fait, c'est sans doute le football africain est excellent, on a des meilleurs joueurs du monde. La prochaine étape pour le football africain de pouvoir s'imposer, c'est de revoir l'organisation. Malheureusement, comme le suggère notre auditeur, les fédérations sont indépendantes. Personne ne peut intervenir, ni la FIFA ou les gouvernements africains. Même le gouvernement du Cameroun, par exemple, ne peut pas s'imposer à la fédération.
Donc, en fait, ils ont eu des problèmes avec la FIFA pour avoir essayé de s'ingérer dans les affaires de la FIFA.
Exactement. Donc, c'est ça qui complique l'organisation parce que les fédérations sont comme des clubs assez fermés et lorsque les choses ne marchent pas, c'est difficile d'intervenir de l'extérieur et il va falloir qu'on trouve une solution à cela.
Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne, Laurent Bationo. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, allez-y.
Ok, j'aimerais me prononcer sur la Coupe du Monde. Hein.
Allez-y.
Allô? Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi les joueurs africains qui jouent dans les championnats européens, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils sont beaucoup indisciplinés.
Voilà, bonne question, Eugène. Pourquoi ces joueurs qui évoluent en tant que professionnels dans les plus grands clubs européens sont indisciplinés une fois en Afrique?
Moi, je vais parler avec mon expérience, puisque moi, j'ai été DTN de la Fédération Centrafricaine de Basketball et j'étais entraîneur de l'équipe nationale, et c'est réel ce qu'il est en train de dire. Moi, je pense que c'est dû au fait du manque d'organisation. D'abord, c'est le premier problème. Parce que quand une fédération, je voudrais revenir rapidement sur les primes, les nations qui participent à la Coupe du Monde, toutes les nations, je pense, si je ne fais pas d'erreur, reçoit une enveloppe de près de 18 millions de dollars. Bon, ça peut être moins, mais au moins 18 millions de dollars par pays. Dans cet argent, les pays devraient dire quel est le quota qui est donné aux joueurs. Mais bon, au-delà de l'argent, je pense que c'est d'abord un problème disciplinaire parce que nos fédérations, malheureusement, les gens qui s'y trouvent, pour beaucoup d'entre eux, sont des aventuriers qui viennent pour se remplir les poches et qui n'ont aucun intérêt au développement du sport en tant que tel. Et tout le désordre commence à ce niveau. La décision qui a été prise, par exemple, par le staff technique du Ghana est la meilleure décision. Si des joueurs sont indisciplinés, il faut les bannir de l'équipe nationale, un point, un trait. Ça donnera l'exemple, c'est mieux de jouer avec ceux qui sont disciplinés, qui veulent jouer, quitte à perdre des matchs. D'un autre côté, je comprends les joueurs, parce que je prendrai le cas du Cameroun, qui est le cas le plus flagrant depuis 3 ou 4 ou 5 Coupes du Monde. Chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, les joueurs sont désavantagés. Imaginez l'équipe du Cameroun qui s'en va avec une délégation de 23 joueurs et 10 accompagnateurs techniques médicaux et qui ont 202 personnes en surplus qui prennent l'avion avec eux, qui sont pour certains pris en charge par le gouvernement. C'est aberrant, c'est pas possible. Il faudrait qu'ils changent ça. Et ça part à partir de ce niveau. S'ils arrivent à régler ça, si nous arrivons à mieux organiser notre football et que nous sanctionnons les joueurs quand il faut les sanctionner, ce genre d'indiscipline n'auront plus leur place.
Voilà, merci. Eugène Bagassi, un dernier mot?
Oui, en fait, ce que je voudrais dire, toutes ces questions-là doivent être réglées dès qu'on sait qu'on est qualifié pour une compétition majeure. On met tout sur la table. Qu'est-ce qu'on devrait payer aux joueurs et qui est-ce qui devrait se rendre au Brésil, comme c'est le cas par exemple, pour accompagner l'équipe. Et une fois que c'est réglé, on ne doit plus tolérer que quelqu'un aille à la compétition et à la dernière minute tourne le couteau et le met à la gorge de son pays. Soit vous me payez ou je ne joue pas les huitièmes de finale. Et je trouve que ça ne fait pas sérieux et ça ne donne pas une bonne image de ces pays. Quoi.
Merci Bagassi. Nous allons passer quelques messages sur Facebook. Notre ami Eric Toutala de RDC dit « Bonne chance à l'Algérie et au Nigeria ». Nous avons Delphin Patindé qui dit « Le Nigeria et l'Algérie seront qualifiés pour les quarts de finale, mais ces arbitres anti-africains sont là, comptés sur les membres de nos ancêtres, sur les membres donc de nos ancêtres pour les décourager ». Mustapha Benjamin Camara, lui, se demande pourquoi les arbitres restent toujours muets quand il s'agit de fautes contre les Africains. Voilà, c'est tout pour cette édition de l'Amérique et vous. Merci à notre envoyé spécial Nicolas Pino à Rio. Merci à Eugène Pewa Pelema. Merci à Bagasikura. Merci à tous nos auditeurs. Écrivez-nous sur notre page Facebook Timothée Donangmaï. Rendez-vous tous les vendredis dans l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis.